Vous écoutez RTL.
Pour se remettre de toutes ces émotions, tiens, on part manger, découvrir l'histoire des plats de nos régions. Mmh. Bonjour Marie-Hélène Bellac.
Bonjour. Bonjour, bienvenue.
Ravie de vous retrouver au micro de la curiosité. Vous êtes historienne, écrivain, passionnée par ces régionalismes culinaires. Si on pouvait les compter, on pourrait dire qu'il y en a combien de ces spécialités locales dans notre beau pays ?
Difficile, même impossible de donner un chiffre exact. Chaque région, non seulement a sa spécialité, mais même on a des spécialités, je dirais, qui sont familiales ou à une famille élargie. Donc, ce sont sans doute des milliers, tout ce qu'on peut dire.
Et un plat régional, ça naît au sein de la famille aussi ?
Oui, bien sûr, je ne veux pas donner d'exemple personnel, mais oui, il y en a. Hein. Je veux dire, bien sûr, je vais en donner un d'ailleurs.
Du coup, vas-y.
Par exemple, la rousole, qui est une spécialité du Sud-Ouest, qui n'était pas proprement familiale, mais chaque famille avait quand même sa recette. Et chez nous, on mettait beaucoup de jambon cru.
Je salive.
C'est que le début, vous allez voir.
Parce qu'on va avoir de la bouillabaisse, des galettes bretonnes, du cassoulet, du colombo, bref, la régalade. Restez avec nous sur RTL.
La recette du kouign-amann, spécialité de Bretagne. RTL. Une base de pâte à pain avec du beurre et du sucre, du beurre et du beurre et du beurre et du beurre fondu, 10 grammes.
La curiosité.
Je place mon beurre sur mon beurre. Je vais incorporer un tout petit peu de beurre fondu pour détendre.
Est un vilain défaut.
Ensuite, je viendrai tourer avec du beurre de tourage, 220 g de beurre et 220 g de sucre. Il me reste à peu près 180 g de beurre. Si je vois que ça colle, je mets du sucre.
Thomas Hugues.
C'est ça, la Bretagne.
Sidonie Bonnec.
Bah, franchement, le kouign-amann, c'est que du beurre et du sucre.
On aurait dû l'appeler le beurre-sucre.
C'est vrai, on l'appelle comme ça dans l'intimité. Quelle est l'origine, histoire de nos spécialités culinaires ? C'est l'historienne et écrivain Marie-Hélène Bellac qui répond à cette question gourmande. Et tiens, justement, on va rester en Bretagne et on va raconter
l'histoire.
On
commence par la Bretagne.
De cette galette adorée ou de cette crêpe. D'ailleurs, il y a débat entre les deux noms. Vous allez peut-être nous aider à faire la différence. Pourquoi est-ce qu'elle est bretonne, la galette ?
Alors, elle est bretonne parce qu'elle est faite avec un produit breton, en l'occurrence le sarrasin.
C'est ce qu'on appelle la farine de blé noir aussi.
Voilà,
hein,
on l'appelle le blé noir aussi. En fait, le sarrasin a été cultivé en Mandchourie. Il est venu progressivement jusqu'à la Bretagne. On pense qu'on le cultivait dès le XIIe siècle, au moins, en Bretagne, parce qu'on a des terres pauvres qui ne supportent ni le blé, ni même le seigle. Mm-hmm. Et donc, on fait avec ce sarrasin une bouillie, parce que le sarrasin n'est pas panifiable. Donc, on ne pouvait pas faire de pain. On faisait une bouillie qu'on étalait au départ sur une pierre très chaude. C'est un peu comme les tortillas mexicaines, vous voyez, au départ. Sûr. Et de là est venue donc cette galette qui ne contient pas d'œufs, pas de beurre, pas de sucre, et qui est en Bretagne maintenant, je dirais, une institution, un vrai plat, surtout qu'on la garnit maintenant de toutes sortes de mets plus délicieux les uns que les autres.
Et d'ailleurs, si vous suivez Sidonie Bonnec sur Instagram, vous avez peut-être la photo.
Ah non, c'est sur le compte, on l'a mis de la curiosité.
Je ne l'ai pas vu sur notre
de la
compte.
Curiosité. Bon,
je vais retweeter
on
ça
va le mettre
très,
sur Twitter
très vite.
Aussi. On sait qu'on peut mettre plein de choses.
La dernière galette made by Bonnec.
Attention, Thomas, vous qui n'êtes pas breton, on ne confond pas galette et crêpe. C'est quoi la différence en Bretagne ?
Alors, en Bretagne, en fait, ce qu'on appelle la galette est une crêpe. Mais c'est une crêpe salée, faite avec le sarrasin. Mais alors, il y a des choses qui sont un peu amusantes, parce que on a aussi en Bretagne des galettes, c'est-à-dire en fait des gâteaux qui ressemblent à des sablés. Je pense à la galette nantaise, par exemple. On a aussi les crêpes dentelles à la fin du 19e siècle, qui sont devenues une spécialité de Quimper. Donc, la marge entre crêpe et galette est toujours un petit peu fluctuante et selon les régions aussi, puisque la galette et la crêpe sont des produits qu'on trouve partout.
Donc galette plutôt salée, on va dire. Salée et crêpe, c'est une crêpe sucrée.
C'est une crêpe sucrée en Bretagne.
Oui, alors, j'ai tout noté.
Plutôt.
Allez Marie-Hélène Bellac, on va quitter la Bretagne pour partir dans le sud-est de la France. Et nous voici face à la bouillabaisse. Alors déjà, ça veut dire quoi le mot bouillabaisse ?
Alors bouillabaisse, c'est très simple. C'est bouille, on fait bouillir l'eau dans laquelle on met les poissons avec quelques aromates. Et dès qu'elle arrive à ébullition, on abaisse. Ouais. Parce qu'il ne faut pas évidemment que les poissons soient réduits en bouillie. Donc c'est un plat au départ très simple. Enfin, c'est une préparation très simple que les pêcheurs faisaient sans doute avec les invendus de la pêche. Et ça n'est devenu un plat sophistiqué que bien plus tard, en fait, la première mention qu'on a d'une bouillabaisse servie à Paris, c'est à la veille de la Révolution française, chez les Frères Provençaux, qui était un des restaurants qui a ouvert sous les arcades du Palais Royal. Mmh. Puis alors ensuite, La bouillabaisse est devenue de plus en plus complexe, puisqu'on sert même maintenant la bouillabaisse parfois avec une langouste, ce qui est une hérésie. Et ça explique d'ailleurs qu'il y a des associations de défense de la bouillabaisse, pour essayer quand même de lui garder son caractère d'origine.
Défendons la bouillabaisse qui aurait été inventée par les Grecs, c'est ça ?
Ah, alors, il y a une légende qui raconte que c'est Vénus qui aurait inventé la bouillabaisse. Oui. En fait, elle aurait fabriqué la bouillabaisse pour endormir Vulcain pour aller rejoindre Mars. Bon, ce qui est certain, c'est que le long des côtes, partout, on mange des soupes de poisson, ce qu'on appelle aussi des chaudrées, des cotriades, qui sont faites avec les produits locaux. Donc, bien sûr, les Grecs pratiquaient l'équivalent de la bouillabaisse.
Et aujourd'hui, Marie-Hélène Bellac, qu'est-ce qu'on trouve comme ingrédient dans la bouillabaisse ?
Alors,
Déjà,
les restaurateurs de Marseille qui ont établi cette charte de la bouillabaisse expliquent bien les quelques poissons qui doivent être obligatoirement, notamment des poissons locaux comme le grondin, comme la vive. Il n'y avait pas de lotte au départ, c'est un poisson noble qu'on a mis par la suite. Il faut du safran, qui est aussi un produit cher, donc il n'était sûrement pas dans la bouillabaisse des Grecs. Ouais. Et, en plus, il n'y en avait pas. Et puis aussi des aromates, et la pomme de terre n'est pas obligatoire. Il faut la servir en deux services, d'abord le bouillon, ensuite les poissons, et il faut toujours l'accompagner de rouille, qui est cette pommade qui n'est pas théoriquement une mayonnaise. La rouille, elle est faite avec de la pomme de terre écrasée, du jaune d'œuf, de l'huile, du safran, on la relève.
Donc c'est plus épais que la mayonnaise, en fait, c'est ça ?
Un peu plus épais, ouais. Voilà. Et on doit accompagner le plat avec cette rouille qu'on met sur des croûtons de pain grillé avec de l'ail.
C'est grave quand même, parce qu'on a quand même déjeuné, on a envie de se faire une bouillabaisse en dessert grâce à vous.
À cause de la rouille et des croûtons.
D'ailleurs, vous publiez un dictionnaire gourmand du canard d'Apicius à la purée de Joël Robuchon.
Oui, on le réédite.
Vous le rééditez, c'est aux éditions d'ailleurs Omnibus. Tiens, on va partir dans une autre région et parler du cassoulet. Quelle est la légende ? On dit que ce cassoulet est né au XIIe siècle, à Castelnaudary dans l'Aude. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une pure légende ?
Alors, c'est une pure légende. En tout cas, le cassoulet tel qu'on le connaît, puisqu'il n'y avait pas de haricots à cette époque en Europe.
Pas de haricots blancs encore ?
Ni blanc ni vert, d'ailleurs les haricots verts sont encore plus tardifs. Ouais. Le haricot est un produit du Mexique, donc il a été introduit simplement quand les conquérants espagnols ont découvert l'Amérique, et donc il a été rapporté en Europe au XVIe siècle, et sa culture ne s'est diffusée dans le sud de la France qu'au XVIIe siècle. Donc il ne pouvait pas y avoir de cassoulet avant. Ce qu'il y avait, c'est sans doute des ragoûts faits avec du mouton et des fèves, parce que la fève, par contre, poussait depuis très longtemps, c'est un produit régional, et on le faisait dans une cassole. D'où vient le nom de cassoulet, en fait ?
Ah oui.
Une cassole,
c'est un plat. On en fabrique d'ailleurs encore à proximité de Castelnaudary. Et c'est là-dedans que le cassoulet peut mitonner jusqu'à la dernière phase où on le met au four et où une croûte doit se former. Alors, vous savez qu'il y a des disputes entre les gens de Castelnaudary, de Carcassonne, de Toulouse, pour savoir qui a inventé le cassoulet. Et alors, à Castelnaudary, on casse la croûte qui se forme 6 fois, à Carcassonne 7 fois, à Toulouse 8 fois. Puis il y a bien d'autres.
C'est l'inflation.
Voilà, exactement.
Bon, il vous reste encore un peu de place ? Nous, oui. Allez, on part goûter des spécialités culinaires régionales qui ont disparu au menu de la Grèce normande, le sac d'os et la sanguette.
Oui, il faut quand même pas mal de place là. Hein.
Restez avec nous sur RTL, on est cap.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec, sur RTL.
Non mais je vous le dis ici, cette histoire, ça me fait du mal. Parce que moi, je suis très exigeant avec mes farines. Je fais moi-même mes tournées d'inspection chez les meuniers. Et avec tout ça, il y a des bruits qui courent. Ça sera à Kaamelott qu'on trouve le plus mauvais pain de Bretagne.
La curiosité est un vilain défaut.
Il y a du froment, de l'orge, du son, des mélanges unicommandes. Il y a même un pain à la farine de châtaigne. C'est pas compliqué, il n'y a pas mieux.
Alors j'y vais ?
Vas-y.
Alors ? C'est de la merde.
Allez, non, mais essayez de développer un peu.
Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Moi, on me sert ça dans une auberge, le tavernier se prend une tige dans sa tête.
Extrait de Kaamelott.
Ils sont sévères, hein,
le pain n'est pas toujours
on
bon,
hein,
ça, ça peut arriver, mais nous, on vous raconte l'histoire des spécialités culinaires de nos régions avec l'écrivain, historienne Marie-Hélène Bellac. Alors là, on va se pencher sur des plats qui ont disparu aujourd'hui.
Vous ne penchez pas trop parce que c'est fort. Hein.
Qui nous restaient nos ancêtres. Et ça nous dit beaucoup aussi des modes de vie de l'époque. Le sac d'os, c'était un plat de quelle région et à quelle époque ?
Alors, le sac d'os, on le trouve dans tout le sud-ouest et même dans le centre, en Auvergne notamment. Alors, quelle époque ça s'est lié à ce qu'on appelait la tuée du cochon. C'est-à-dire quand on abattait le cochon à la ferme tous les ans à la fin de l'année. Et on mettait dans une panse, enfin dans la panse du cochon, tous les morceaux d'os sur lesquels il reste un peu de chair. Hein, pas, c'est pas des os qui ont été nettoyés avant, donc il y a de quoi manger, c'est ça que je veux dire. Et puis quelques aromates, des fois un petit peu de ventrèche. De ventrèche, c'est une viande avec, si vous voulez, un peu comme du petit salé, si ça peut, hein, vous donner une idée du goût.
Voilà. Je vois mieux.
Et puis, on mettait tout ça dans de l'eau, avec quelques aromates, et on faisait cuire longuement, il faut que ça cuise longuement. Et ensuite, on mangeait le contenu de cette panse, c'est-à-dire ces os avec les doigts d'ailleurs.
On ouvrait la panse, dans l'estomac.
On rognait les os,
on pouvait mettre des pommes de terre avec, ou des haricots sur les régions. Mais c'était une façon de ne rien jeter. Vous savez qu'on dit que dans le cochon, tout est bon. Mais là, on en a vraiment l'illustration.
Marie-Hélène Bellac, on va quitter le sud de la Haute-Loire pour filer en Normandie, où l'on aimait bien préparer la graisse normande. Quels étaient les ingrédients pour la fabriquer?
Ah oui, alors très important,
du gras et du gras.
Oui, évidemment. Alors, théoriquement,
et du sandou peut-être.
Théoriquement, la bonne graisse normande, elle se fait d'abord avec le gras du rognon. Mais enfin, ça ne suffit pas. Dans la plupart des fermes, on prenait tout ce qu'on avait. Ça pouvait être du gras de porc, du gras de bœuf, voire de mouton, qu'on faisait fondre avec des aromates. On salait à la fin. Alors, on dit qu'on faisait cuire, on mettait aussi quelques légumes, et on faisait cuire 3 jours et 3 nuits. Vous voyez, c'est une très, très longue cuisson. Après quoi, on filtrait, on salait fortement, on mettait dans des pots de grès. Et alors, c'est là que c'est important, c'est que quand on faisait une soupe, on mettait une cuillère de graisse dans la soupe. Et ça donnait effectivement à la soupe, un parfum de viande, un parfum extraordinaire quand même. Hein.
Et ça se conservait longtemps, ça, la graisse normande?
Oh, un an. On la conservait d'une tuée à l'autre. Donc, elle était un peu rance peut-être à la fin, mais...
Mais toujours savoureuse.
Voilà, moins.
Allez, on va maintenant déguster une drôle de galette. On part en Occitanie. Une galette de sang.
Oui, la sanguette, qu'on appelle encore la sanquette. On trouve des noms différents.
Donc, c'est-à-dire qu'on la cuisine toujours?
Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on ne le fait plus parce que la sanguette, on peut la faire avec n'importe quel sang. Donc, on verse le sang dans un récipient avec un petit peu de vinaigre. Et puis là aussi, on peut mettre des aromates, etc. Et ensuite, on fait une galette qu'on fait frire. Je vais vous dire honnêtement, ma grand-mère en faisait. Donc, je suis plus toute jeune, mais enfin, c'est pas si loin que ça.
Oui, bien sûr.
Faisait... J'en ai pas un souvenir impérissable.
C'est pas votre meilleur souvenir culinaire.
Mais on le faisait beaucoup avec le sang du poulet. Donc, pendant longtemps, on tue encore les poulets, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a pratiquement complètement disparu.
Donc, c'est ce que vous nous disiez, ces plats, ça nous dit quoi de nos ancêtres, le fait de devoir ne rien perdre, de faire attention à ce qu'on mange, de ne pas gâcher, c'est
ça ? De ne pas gâcher, c'est lié aussi à des modes de consommation en autarcie, ou du moins en autarcie partielle, c'est-à-dire qu'on tuait son cochon, on tuait ses volailles, et donc on utilisait tout ce qu'il y avait à ce moment-là. Donc tout ça a disparu avec l'industrialisation.
Mmh. Allez, on a d'autres surprises à découvrir grâce à vous, Marie-Hélène Bellac. Par exemple, des spécialités culinaires régionales qui, en fait, n'ont rien à voir avec nos régions. Voilà, à venir sur RTL.
14h-15h.
Turlute.
Pardon ?
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Affamé. Une turlute.
Ah ben... Évidemment, oui.
Chouette. Par contre, le problème, c'est que j'ai pas de lentilles.
Tu parles d'une recette de cuisine ?
Bah oui, la turlute. Un jour, j'ai entendu mon père dire à ses copains que c'était la spécialité de ma mère. Alors, je lui ai demandé la recette.
Les curieux sont sur RTL.
La turlute de ta mère.
Voilà, mais sans lentilles.
Sans lentilles. J'ai faim.
La petite histoire de France avec Alban Ivanov et l'histoire de la turlute à base de lentilles, bien sûr.
Oui, bien sûr, c'est de celle-là
c'est meilleur.
Dont on parle, ouais, évidemment.
Pas des lentilles pour mieux voir, évidemment. Voilà. Bienvenue dans notre tour de France des spécialités culinaires avec l'historienne Marie-Hélène Bellac, et puis des spécialités qui nous jouent des tours comme cette turlute. Par exemple, la sole normande qui n'est pas tout à fait normande. Bon, alors déjà, rappelez-nous ce que c'est, ce qu'on appelle une sole normande.
Alors, une sole normande, c'est un plat fait avec une sole, bien entendu, enfin des filets de sole.
Oui.
Et puis, des crevettes, des moules, on peut éventuellement mettre des huîtres, et dans une sauce à base de vin blanc et de crème. On ajoute parfois quelques champignons de Paris. Donc, c'est un plat qui n'a certainement pas été inventé en Normandie, même si on trouve des traces de matelotes qui lui ressemblent, mais qui a été probablement mis au point par un restaurateur d'un restaurant très célèbre à Paris qui s'appelait le Rocher de Cancale en 1837. C'est un restaurant que fréquentait beaucoup Balzac, notamment.
Dans le quartier de Montorgueil.
Voilà, ouais, exactement.
Près des Halles de Paris.
Et donc, ce restaurateur, l'anglais, aurait donc mis au point cette recette de sole normande. Mais c'est une recette qu'on trouve, je dirais, dans toute la région, de part et d'autre, même de la Manche et de la mer du Nord, notamment en Angleterre. Actuellement, enfin, je sors bientôt un livre sur Agatha Christie. Agatha Christie qui était grande gourmande. Mmh. Et à la table de ses parents, on servait un plat de sole qui lui ressemblait, d'un bal de sole qui lui ressemblait étrangement. Et Agatha adorait ce type de mélange. C'était une grande buveuse de crème. Elle buvait plusieurs fois par jour et au moins une fois un verre de crème mélangée avec du lait cru. Elle ne buvait pas de vin, mais elle buvait de la crème. La crème du Devon, il est vrai, était une crème très savoureuse. Elle l'est toujours.
Et ces histoires, on peut les découvrir dans Agatha Christie, Les mystères d'une vie, qui paraît le 11 avril aux éditions Perrin. Et alors, cette fondue bourguignonne aussi, elle n'est pas vraiment bourguignonne.
Non plus. Alors là, mais il y a quelque chose, vous allez voir, c'est amusant. Ah. C'est un restaurateur suisse qui revendique, un restaurateur de Lausanne, qui s'appelle Eisenwen, qui revendique sa paternité. Il dit que, en s'intéressant à la cuisine zigane, il a inventé cette fondue bourguignonne qui consiste donc à tremper dans de l'huile frémissante des cubes de viande. Mais pourquoi l'a-t-il intitulée bourguignonne ? Alors là, c'est là qu'on voit la vérité. Il a été intronisé chevalier du Tadevin. Les chevaliers du Tadevin, c'est la plus grande confrérie vineuse de Bourgogne. Et à cette occasion, il s'est dit que un vin de Bourgogne était véritablement la boisson qui accompagnerait le mieux ce plat. Et donc, du coup, il a baptisé fondue bourguignonne.
Rassurez-nous, Marie-Hélène Bellac, la choucroute, elle est bien alsacienne ?
Oh, pas vraiment. Enfin, alors, vraiment, je suis désolée.
Elle vient d'où ?
Ce sont les Chinois, en fait, qui les premiers ont eu l'idée de faire fermenter le chou et puis ensuite de le conserver dans une saumure. Et cette choucroute est donc venue à travers les steppes d'Asie centrale, jusqu'en Suisse, en Allemagne, en Pologne. Et de là, évidemment, elle a atteint l'Alsace, où on l'appelle, en dialecte, c'est la surcroute. Surcroute, c'est de là que vient choucroute.
Oui.
Et la sorcroute, c'est le chou acide.
Donc le mot choucroute vient du dialecte alsacien.
Le dialecte alsacien vient lui-même sans doute de l'allemand Sauerkraut. Sauer, acide, Kraut, le chou.
Et comme on est en France, on a rajouté de la viande à quelle époque dans cette choucroute ?
Alors, on a rajouté de la viande. En fait, la viande, on l'a sans doute, c'est encore une question de moyens. Hein. Le paysan pauvre ne mettait pas de viande. Mais on sait par exemple que la fameuse saucisse de Strasbourg qu'on associe tout le temps à la choucroute existait déjà au XVIe siècle. Alors, après, c'est toujours pareil, on a mis de plus en plus de viande. Et les Alsaciens qui ont fondé les brasseries parisiennes ont mis même du jambon de Paris.
Allons-y.
C'est dire. Merci beaucoup, Marie-Hélène Bellac, dictionnaire gourmand du canard d'Apicius à la purée et de Joël Rebuchon. C'est chez Omnibus et puis à venir, Agatha Christie, Les mystères d'une vie aux éditions Perrin. Merci de nous avoir régalés.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.